en mission pour le Seigneur.
Bonjour Pascal.
Salut Yann.
Comment vas-tu?
Bah, très bien.
Ravi de te retrouver. Prêt pour une nouvelle Metal Story?
Exactement.
Alors aujourd'hui, on est vraiment ravis. On accueille un artiste qu'on aime beaucoup. Monsieur Arnaud Robotini. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors je vais te présenter rapidement. Tu es un musicien et compositeur de musique électronique français. Né à Nancy, dans les années 70. Enfin 70, hein, pour être précis.
Pile poil. Bassume, allez.
Voilà, tu te produis sous ton propre nom, mais aussi sous le pseudonyme de Zen Avesta.
Oui.
Alors Zen Avesta, j'ai regardé, c'est un code sacerdotal des Zoroastriens, qui en fait, c'est lié à une langue ancienne, iranienne, hein, proche du 9e et 10e siècle.
Oui.
9e et 10e siècle, pardon.
C'est même l'ensemble des paroles de Zarathoustra.
Et c'est l'ensemble des paroles de Zarathoustra, tout à fait. Ça t'est venu comment?
J'ai fait des études de linguistique.
Alors,
et en
voilà.
fait, c'est un ouvrage clé qui a permis de développer tout le concept autour de l'indo-européen et de que les langues européennes avaient des origines indiennes.
D'accord, donc monsieur a de la culture, hein, je vois.
Oui,
alors il a aussi, Arnaud, créé un groupe, un side project qui s'appelle Black Strobe en 97.
Oui, oui.
Avec une reprise incroyable de Bob Diddley, I Am A Man, donc, oui. En 2007, je crois.
Oui, oui, c'est ça, oui.
Donc super reprise. Ça t'a valu une certaine reconnaissance, de notoriété, enfin, parce que tu étais déjà connu à travers ton travail sur la musique électronique, mais globalement tu avais...
Ouais, Black Strobe, c'était un truc très très branché, électro, j'ai fait plein de remix, avant de qu'il y ait cet album qui est très rock, et en fait c'était un peu...
Ouais.
C'était un duo, au départ c'était un duo DJ-producteur avec un DJ qui s'appelle Yvan Smag, et notre relation s'est un peu tendue, et moi j'ai amené le truc vers quelque chose de plus rock, et c'était une période où j'écoutais pas mal de blues, de black metal, enfin voilà, et j'avais envie de mélanger un peu tout ça, et cet album est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, avec la référence à Burzum, parce que l'album s'appelle Burn Your Own Church, et voilà, qui était un peu la destruction du groupe, et de ce côté un peu DJ, remix et tout ça.
Oui, assez innovateur à l'époque. Alors,
le premier titre de l'album, il est en norvégien.
En norvégien, oui.
Et
pour
Church.
Les initiés. Enfin, donc,
qui est une sorte de black metal, un peu...
C'est ça. Ouais. Alors, tu as quatre, si ma mémoire est bonne, quatre albums à ton actif. Et puis, tu as aussi composé des musiques de films. D'ailleurs, tu as eu un César pour ça.
Oui, voilà.
En 2018, bravo.
Ouais, ouais.
Pour 120 battements par minute, si je ne me trompe pas. Et puis surtout, tu as récemment, en 2022, tu as écrit la BO pour un film de Dario Argento qui s'appelle Occhiati Neri, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, Dario Argento, je le dis pour les métalleuses, c'est aussi un cinéaste, évidemment, qui avait réalisé un film qui s'appelle Phénoména en 85, BO sur laquelle on trouve du Maiden, notamment, donc comme quoi il y a une cohérence.
Puis même le métalleux peut être assez sensible à l'esthétique de Goblin qui a écrit pas mal de BO d'Argento,
ouais.
Et qui est quand même un groupe prog italien, enfin j'adore, hein, enfin c'est avec une esthétique propre qui peut plaire en métalleux, hein.
Bon bah écoute Pascal, on est parti.
Bah, c'est parti, c'est
jingle
parti, c'est parti, les origines du métal. Mon cher Arnaud, nous allons nous intéresser aux origines du mal. L'idée étant de savoir un petit peu comment toi, tu es tombé dans le mal, justement, dans le métal. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en écouter, tes premiers amours, etc. Dis-nous un petit peu.
Alors en fait, moi je suis passé un peu à travers la période ado-métal. Je dis souvent, je l'ai découvert un peu tard, vers 18 ans. Tu vois, AC/DC, ça ne m'avait pas plus passionné que ça quand j'avais 14-15 ans. Maiden, tout ça, ça m'a passé un peu au-dessus. Et en fait, il y a un jour, j'étais dans cet area et ils ont commencé à jouer les PlayStation de Napalm Death, enfin, ou la compil Grindcore Holocaust. Et bon, avant, entre cette période-là, j'écoutais beaucoup de musique noise, des trucs new-yorkais, genre Sonic Youth, Swans, du début. Voilà, j'ai eu un choc esthétique.
Ça, on est en quelle année à peu près?
88-89.
88-89, oui. Oui, exactement.
De Hardcore Holocaust.
Ouais.
Et là, je trouve le son génial et ça me parle. Et c'était à l'époque, c'est contemporain de Angels Eyes For All de Metallica. Donc le premier album hors grind de metal que j'écoute, c'est Angels Eyes For All, qui reste d'ailleurs pour moi mon album préféré de Metallica, même avec tous ses défauts. J'adore le côté hyper synthétique des guitares, les solos de guitare, on dirait du clavecin, enfin tu vois, c'est ce truc un peu ridicule. Et j'ai mis très longtemps à admettre, tu vois, tout l'aspect sataniste, le début Slayer, alors que je suis devenu bien sûr hyper fan depuis. Tu vois, le côté Satan, tu vois, je trouvais ça débile, et en fait, j'ai pas vraiment capté le délire, et moi, tu vois, venant d'un truc un peu plus indus, un peu plus intello, entre guillemets, et alors que maintenant, je suis totalement, enfin, tu vois, il n'y a pas de...
Et ça, c'était chez toi, qu'il y avait une scène un petit peu sensible à ça, c'était des gens autour de
non,
toi?
Non, c'est vraiment avec un cercle d'amis, tu vois, on venait un peu de cette scène noise, ça a créé une sorte de crossover pour nous, avec le grind, et qui nous a amené vers le métal classique.
Et du coup, tu commençais déjà à jouer un petit peu, toi, t'avais...
Non, c'est venu un peu après, quelques années après, où j'ai fait un groupe de... au lycée, j'ai fait un groupe de death, j'étais chanteur dans un groupe de death.
Dans les années, pareil, 80...
c'est un peu 90. Après, c'est début 80, tout début 90,
Et ça ressemblait à quoi, du coup, ta vie à ce moment-là, à Nancy?
Non, c'était pas Nancy, j'habitais déjà à Paris. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 13 ans. Donc,
Oui, t'as bougé tôt.
Ouais. C'était la vie en banlieue, les groupes de death dans les salles de répète, à plaisir, à mon repas. Enfin, toi,
je vois bien.
À l'époque, des groupes de death en banlieue, t'en avais pas tant que ça.
Ouais.
Nous, on faisait des répètes, il pouvait y avoir 50, 60, 70 personnes, rien qu'à nos répètes. Donc, c'était un prétexte pour boire des bières et tout ça. Enfin, et je garde un assez bon souvenir de cette période-là, un peu. Après, le groupe s'est arrêté. Enfin, voilà, c'est toujours compliqué. Mais...
Ouais. Ça, c'était avant que tu bascules complètement sur d'autres esthétiques musicales, quoi.
Oui, en fait, il y a un moment où on a eu un côté un peu métal-indus avec des samples. Moi, je commençais à m'intéresser à la musique électronique. Enfin, pas à m'intéresser, parce que la musique électronique, c'était avant le métal, mais à pratiquer la musique électronique, donc j'ai ramené un sampleur dans le groupe, tu vois, on avait fait des trucs avec des samples d'Albanberg, des trucs de musique contemporaine, enfin tu vois, c'était assez...
Exploratoire.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est ça. Ouais. Et du coup, dans les groupes, donc, comme tu nous le disais, les groupes qui ont marqué ton enfance, il y a évidemment Metallica avec le Justice et le Slayer, le South of Heaven.
Ouais, South of Heaven, pour moi, c'est... Je sais que c'est pas l'album le plus aimé des fans. Enfin,
c'est un bon album quand même.
Ouais, pour moi, il y a vraiment un truc très sombre dans ce disque. Enfin, pour le coup, c'est vraiment...
Oui, il est presque plus dark que Raining Blood, en fait.
Il est plus dark que Raining Blood. Raining Blood, c'est un bon album, mais... Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Mmh. Mais je trouve que les compos, elles vont encore plus loin dans South of Heaven.
Plus torturé.
Ouais, pas torturé.
South of Heaven, exactement. Même année, 88, de la même manière. Ouais. Une année charnière pour toi, quoi.
Ouais, bah après, ouais, tu vois, c'est le moment où tu... Après, c'est des très bonnes années dans le métal, hein, quand même.
Ah oui, c'est clair, c'est clair. Il y a 2-3 années charnières comme ça. Ouais. Celle-là, on fait partie, effectivement, puisque c'est aussi l'année de Justice. Donc voilà, on va s'écouter un petit morceau de South of Heaven, de Slayer. Le morceau éponyme, le morceau de l'album South of Heaven. C'est parti. The second coming arrives. On vient de s'écouter un petit Slayer des familles, parce qu'on aime bien Slayer nous aussi, un petit South of Heaven, et on passe tout de suite au live After Death, les lives de ta vie.
Alors Arnaud, si on parle de live, est-ce que tu te souviens de ton premier concert de métal ?
Alors c'est pas exactement du métal, mais il y a un concert qui m'a marqué, c'est Henry Rollins au Théâtre du Dunois, ça devait être en 87-88.
Pareil.
Pareil. Ouais. Et là, au Théâtre du Dunois à l'époque où il n'y avait pas de jauge, donc rempli à blinde, c'était la tournée Do It. Et là, j'étais encore un peu vierge,
novice.
un peu novice, ouais, un peu frais. Et là, tu as Rollins qui arrive, tu le vois faire ses pompes, tout d'un coup, il arrive sur scène, il lève le bras, comme ça, puis il fait, oh, il se met à hurler, et puis ils font Do It d'entrée de jeu, et tu as la salle qui explose. Ouais. Tout d'un coup, tu es au championnat du monde de gymnastique, et là, et avec qui il y avait un vieux groupe punk français, Fleetox, en première partie. Je me souviens très bien de tout ça. Et ouais, ça, c'était un choc esthétique. Et j'étais ultra fan de Rollins. C'est sans doute un des artistes que j'ai plus vu sur scène.
Ah oui.
Ouais, et qu'est-ce qui te fascine chez Rollins ? Parce que, alors juste pour les auditeurs, c'est vrai que c'est un ancien militaire. Ouais. Il dit d'ailleurs que ça l'avait beaucoup aidé à se discipliner, à structurer sa vie, etc.
Quand tu vois les concerts de Black Flag, tu poses des questions. Ouais, ouais.
Mais il est très éclectique. À la fois, c'est une sorte d'icône de la scène hardcore, post-punk, très militant. Ouais. Il écrit. Et qu'est-ce qui te fascine particulièrement dans... Parce que c'est pas forcément quelqu'un d'assez. Enfin, il est connu dans le monde underground, évidemment, mais. Tu vois, ça te fascine pourquoi ?
C'est la bête de. Enfin, déjà, les albums, c'est la bête de scène. C'est que quand tu écoutes. Enfin, tu vois, il est en avant sur le côté fusion, tu vois, même par rapport à Suicide Hall et encore plus par rapport à Rage Against the Machine, il y a quand même. Attends, j'ai un trou là sur l'album. The End of Silence, voilà. C'est quand même un album incroyable. Et en même temps, il est dans des références 70s, un peu prog. Oui. T'as un peu du King Crimson, t'as un peu le côté funky, t'as le côté genre no bullshit. Tu vois, genre, il y a une guitare, une basse, une batterie et lui. Enfin, c'est et avec des chansons incroyables. Lui, c'est une bête, c'est une bête de scène. Mmh. À la fois hyper violent et hyper sensible. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a un côté assez classe, c'est intelligent, tu vois, c'est pas...
Alors je dis pour les auditeurs, d'ailleurs, j'ai regardé, il a un site internet, et notamment il a travaillé avec une femme de radio américaine, un peu spécialiste dans la country, mais il a des podcasts sur notamment Black Sabbath. Mmh. Il a fait un podcast sur Lemmy assez récemment. Voilà, et, enfin, on sent que voilà.
C'est un mec straight-edge, mais qui est fasciné par les mecs défoncés. Quoi. Genre, Jimi Hendrix et Phil Lynott, c'était ses grands trucs.
Ouais, ouais. Et, les mecs morts, quoi.
Ouais, ouais, les mecs morts d'overdose. Tu vois.
Alors, du coup, le dernier groupe que tu as vu et qui t'a mis une claque, et pourquoi ?
Le dernier groupe que j'ai vu qui m'a mis une claque...
Alors toujours dans la scène plus ou moins, ouais, voilà, ouais. Métal, ou consort.
C'est presque un échec, c'est Celtic Frost à l'Élysée-Montmartre.
Ah oui, pourtant un grand groupe.
Ouais. Et non, c'était un échec pour moi parce que je suis arrivé en retard. En fait, il y avait Creator, et Creator, ça m'amuse, et mais pas plus que ça. Et je me suis dit... C'est évident que Creator va jouer en première partie de Celtic Frost. Et en fait, pas
et
du
pas
tout.
Du tout. Non,
bah et pas du tout. Et j'étais naïf.
J'ai
vu quelques concerts. Ouais, mais c'est bien. Mais pour moi, ça restait... Ouais, tu vois, c'est rigolo, Creator.
C'était une question de popularité, en fait.
Ouais, mais j'avais pas... Tu vois,
simplement.
Plus, c'était Celtic Frost après leur comeback. Génial, c'est le meilleur comeback de tout le temps.
C'est un groupe qu'on aime beaucoup avec Pascal. Ouais.
Et de les voir sur scène, donc j'ai raté le début du concert, honnêtement, et de les voir, je me souviens, j'aurais cette image toute ma vie qui m'a. C'est de les voir dos.
Jouer de dos.
De dos, ouais. Et voilà, hyper.
Fort.
Hyper fort. Après, en méta, qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois, Napalm Death, on y va, parce que la dernière fois que je les ai vus, c'était. Voilà, en groupe récent, pas. Moins déjà.
Alors sinon le groupe ou artiste que tu aurais voulu voir sur scène et que tu n'as pas vu parce que soit ils sont décédés, soit tu n'as pas eu cette opportunité, tu n'étais pas là au bon moment.
Black Sabbath à la grande époque, fatalement.
Ouais.
De les voir maintenant, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt, mais quand tu vois les lives en 70 à Paris,
voilà,
tout,
ça,
là, tu dis que là, voilà, il y avait. De toute façon, ils ont fait un trou à la couche d'ozone. Hein. Mmh. Donc, il y a un moment, c'est genre de. Enfin, toi, c'est une banalité, mais il y a un moment, c'est quand même le groupe qui est l'influence, tu vois, de Nirvana à Joy Division, à tout le monde. Enfin, tu vois, puis t'écoutes, pareil, les 4-5 premiers albums, c'est quand même genre. Ça enchaîne que du chef-d'œuvre, et il y a une inspiration. Incroyable.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc voilà, comme ça, au débeauté,
j'aurais
peut-être pu trouver plus mieux.
C'est pas mal. Alors, tu as choisi dans le live qu'on va passer, l'extrait qu'on va passer, donc un live de Henry Rollins, tu en as parlé tout à l'heure. Hein. Donc, on va s'écouter Hot Animal Machine. We'll be right back.
On vient de s'écouter donc un extrait de ce LP Do It Hot Animal Machine qui est bien représentatif de Rollins d'ailleurs.
Oui, hein, oui.
On peut dire, hein, on peut dire que c'est lui, la Hot Animal Machine. Et on va enchaîner tout de suite sur la rubrique Overkill, le groupe absolu.
Alors Arnaud, on l'a un peu évoqué, hein, ton groupe absolu, Overkill justement, c'est un groupe de greencore britannique, Napalm Death. Alors juste pour rappeler, hein, c'est un vieux groupe, hein, c'est pas récent cette histoire, qui a connu plein de rebondissements.
Ouais. C'est même un concept au-delà d'un groupe. Si tu prends le début 82, c'est un concept.
C'est un concept, donc 80-82. Je suis pas sûr d'ailleurs que parmi les membres actuels, il y en ait encore d'origine.
Bah non, mais je crois que même...
Ils sont tous...
Je crois que même entre la face A de Scum et la face B, il reste plus qu'un mec.
Voilà, c'est ça. Je crois que ça a beaucoup splitté.
Parce que il y a Barney arrivé après, donc ouais, il y a que...
Non, mais même ça change de batteur, parce que c'est pas...
Oui, le line-up a changé au début. Donc 15 albums à peu près en studio, et puis après pas mal
de LP.
Alors pourquoi ce groupe?
Déjà parce que voilà, c'est le groupe toi qui a défini le grind quand même.
Ah oui.
Enfin, peut-être avec d'autres, mais... Voilà, qui a défini le grind et qui a réussi à évoluer et qui s'est stabilisé. D'ailleurs, très étrangement, avec des membres qui ne sont pas forcément... maintenant, il ne reste plus que chez Numbery, qui est un peu du début, qui a réussi à avoir une espèce de carrière comme ça assez longue et qui font... Enfin, moi, les albums m'intéressent toujours. Il y a vraiment un mélange de cette violence, enfin, ce côté vraiment
primal,
et un côté d'un coup il y a un riff qui vient groover au milieu de tout ça, enfin toi c'était entre toi tu ils font péter trois centrales nucléaires et puis après il y a un c'est un peu ça moche un peu, enfin tu vois, et Barney un incroyable chanteur parce que tu vois c'est vraiment
vrai.
Toi autant il y a des mecs qui ont fait Alice Brouf, tu vois, genre Cannibal Corpse et tout ça, enfin tu vois, c'est rigolo, mais autant lui t'as des vraies lignes de voix, t'as un vrai groove aussi, voilà, c'est, et sur scène c'est à chaque fois
la claque
et l'engagement,
le discours,
les textes aussi, parce qu'on peut parler des textes, qui a enfoncé pas mal de portes, qui n'étaient pas forcément ouvertes justement,
y compris récemment un peu sur l'homophobie avec les t-shirts un peu pro-LGBT.
C'est pas le t-shirt que tu portes aujourd'hui, mais t'aurais
pu...
Je
l'ai acheté juste pour la collègue. J'ai beaucoup de respect pour ce groupe et te dire que ces mecs-là, tu vois, à la cinquantaine bien tassée, tu vois, ils continuent à croire dans ce truc.
Il y a une foi incroyable.
Alors, dans les albums, tu as choisi, pour faire découvrir ce groupe, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, On the Brink of Extinction. Donc, c'était l'album Ty Waits for the Slave, 2009. Album particulièrement bon, on peut le dire.
Ouais.
C'est parmi les albums, je trouve...
Déjà qu'ils sont un peu moins bons, c'est pas beaucoup moins bon, mais c'est vrai que celui-là, il fait...
Il est particulièrement intéressant.
Et ce morceau-là arrache particulièrement.
Voilà, donc bon choix, et on s'écoute ça tout de suite. Ouais. We sit on the brink of extinction. The world lies in wait.
On vient de s'écouter un morceau que j'aime particulièrement, moi aussi, On the Brink of Extinction, de l'album Time Waits for No Slave de 2009, qui est leur 13e album, voilà, qui est vraiment un morceau exceptionnel. Et on passe sans transition à la rubrique So French. Mon cher Arnaud, on aime bien, nous, ici, dans Metal Story, parler de la scène française, parce qu'on la trouve particulièrement intéressante, et en plus, on est accompagné par la DAMI et la SACEM, donc on en profite aussi pour valoriser la scène, qu'on trouve, comme je disais, intéressante. Je voulais savoir, toi, quel est ton rapport à la scène française, justement. Est-ce que c'est une scène qui t'a, voilà, qui t'a influencé, que tu as suivi? Quel est ton rapport aux artistes français?
Pas trop influencé, parce qu'à l'époque où moi je faisais du métal, tu vois, c'était Loot Blast et tout ça, donc ouais. C'était un peu...
C'était moins ta cam.
Si, c'était bah, trash et tout, non, si, bien sûr, mais c'est pas... Enfin, tu vois, il y avait des groupes anglais, tout ça, qui nous excitaient plus. Après, ça restait un super groupe.
Bien sûr, ouais.
C'est plus les groupes un peu plus récents, enfin, plus la scène black metal.
Black, ouais.
Ouais. Et un accident industriel qui s'appelle Carnival Inco, oui, aussi,
c'est
que j'adore.
C'est ça.
Qui est quand même incroyable, ce groupe. C'est dommage qu'ils aient arrêté...
Que tu as choisi d'ailleurs dans ta sélection,
ouais.
Qui est une espèce d'ovni. Comment t'es tombé sur ce groupe?
Je sais plus. Tout en lisant la presse, là je sais plus. En plus, ils ont sorti un album chez Irek. On n'a pas parlé des autres groupes Irek, mais il y a quelques groupes comme Entombed ou Wolfthrower, qui m'ont vraiment retourné. Massacre aussi. Ouais. Vois, peut-être un des plus grands albums de death metal, From Beyond.
Carnaval OVNI,
Carnaval,
death, ouais, du black. Ouais.
Pourtant, le côté Mr. Bungle peut me saouler un peu vite.
Oui.
Mais ils ont un truc. Ça marche bien et leur chanteur est incroyable.
Ouais. Arnaud Strobel.
Ouais, voilà, ce qui me fait marrer parce que je m'appelle Arnaud et j'ai un groupe qui s'appelle Black Strobe. Donc, ouais. c'était rigolo.
On salue Arnaud d'ailleurs, qui est aujourd'hui rédacteur dans Hard Force, je crois, ou dans Hard Rock Magazine, je ne sais pas.
Ça existe toujours, parce que je sais qu'il était rédacteur dans Hard Rock Magazine.
Il est toujours rédacteur, et puis il est toujours influent sur les réseaux, donc toujours présent. Et ce groupe mélange, comme on le disait, un peu tous les styles. Donc là, sur le morceau qu'on va écouter, c'est un petit peu particulier, parce que j'ai choisi de faire un petit clin d'œil à un maniaque, la chanson culte de Michael Sambello, de 1983, qui est la BO de Flashdance, qu'ils ont un peu massacré, du coup.
Ouais, elle est bien, elle est bien.
Et la reprise est bien.
Ouais. C'est des trucs qu'on avait joué avec Kem au Hellfest, notamment. Ça et la reprise de Kim Wilde, de The Honor Death, qui est un truc.
Très sous-estimé, Kim Wilde.
Ouais, l'honneur d'être moins.
C'est ça. Alors on va s'écouter un petit Carnival In Call, donc le maniaque repris à leur sauce.
Take all of me. Never stopping with her again.
voilà ce morceau maniaque de Carnival in Call, excellent morceau, une reprise bien déjantée comme on les aime. Et tu nous disais aussi que voilà, la scène black metal, c'est une scène que tu avais aussi...
Je ne suis pas un spécialiste de la scène black metal française.
Il y a quelques groupes que tu avais
apprécié. Death Spell Omega, je ne sais pas si on peut... Enfin si, c'est black metal quand même.
Oui, quand même.
Et Blunt House Nord, évidemment.
Ouais. Qui sont des groupes que tu as écoutés là.
Carrément.
Ouais, qui sont quand même des groupes des années 90, fin 90. Quoi.
En 2000, hein.
Pour 2000 moi, c'est
Death Spell Omega, ça a un an.
Blunt House Nord.
Blunt House Nord, dans les années 90, un peu en même temps que la scène norvégienne. Après, ils évoluent vers un truc un peu Godflesh, Indus, avec l'album The Works That Transform Gods, qui est vraiment une sorte de chef-d'œuvre.
Ça roule. Bah, je propose qu'on s'écoute un petit extrait de Blunt House Nord, justement. Histoire de mettre un peu d'ambiance dans l'émission. Ça s'appelle Tales of the Old Dreamer. C'est un morceau qui est sorti il y a pas très longtemps et qui est assez excellent. On vient de s'écouter donc un petit extrait de Blunt House Nord. Et on va passer à notre dernière rubrique tant attendue et tant redoutée surtout, le Wall of Death. The Wall of Death. Alors on commence cette petite rubrique Wall of Death, mon cher Arnaud. Blackstrobe ou Black Metal ?
Pas Blackstrobe, parce que c'est moi, et que tu vois, le black metal, j'ai jamais pratiqué, donc je regarde ça
de loin.
Comme un amateur, hein, mélomane.
C'est ça, et Blackstrobe de cœur.
Blackstrobe, oui, après, enfin, toi, comme t'en parlais de la reprise de Baudidley, tu vois, c'était cool de faire une reprise de blues comme ça, et que ça cartonne, que les Américains la prennent.
Oui, c'est
elle
ça.
A été utilisée pour un club de foot américain. Enfin de,
oui, j'ai vu, elle a paru
dans plein de trucs et tout, donc c'est cool. Enfin, moi qui adore le blues et toute l'histoire avec les groupes européens qui reprennent, enfin anglais surtout, qui ont fait la reprise de blues. J'en fais une en 2007 et bam, ça marche, c'est cool quoi.
Enfin, c'est chouette.
Belle histoire. C'était risqué. Hein. Il y en a plein qui ont raté. Mais
Bravo.
Alors, métal et électro font-ils bon ménage?
Ouais, j'ai connu plein de mecs à l'époque où j'étais enfin, encore dans le groupe de Death et des relations que j'avais à cette époque-là avec le milieu un peu métal. Il y a plein qui sont partis dans le hardcore, techno. Donc je pense que ouais, ça fait assez bon. Même si c'est des musiques qui sont quand même fondamentalement différentes, parce que le live en techno, c'est quand même un truc, c'est plus un truc de geek. Mais il y a sans doute une énergie, il y a un truc qui s'est passé à un moment. Et puis c'est les deux derniers mouvements musicaux notoires qui sont arrivés, enfin, le métal extrême et la techno.
Si tu pouvais passer une journée avec un, ou plutôt une artiste de ton choix, ça serait qui?
En Rollins.
Un petit journée,
même si je ne saurais pas trop quoi lui dire, tu sais, quand tu es un peu trop fan d'un mec, tu veux te dire des banales. Enfin, tu vois,
vous ferez des pompes?
Bon, on pourrait faire un peu de sport et tout.
Vite fait. Ouais. Alors, une question un peu piège, c'est Gomina ou Gros Minet?
La Gomina, évidemment. Gomina, ça, moi aussi, il faut que ça brille.
Oui, c'est ça, mais je me moque un peu collé. Parce que t'es toujours bien coiffé, donc je suis un peu jaloux. Donc,
ouais, voilà, je comprends.
Tu comprends, ouais, voilà.
D'ailleurs, Elvis, c'est une référence pour toi ou pas?
Le personnage est fascinant parce qu'il résume tout ce qu'a pu être le rock'n'roll à une certaine époque, c'est-à-dire tu vois, la jeunesse, sa beauté, son sex appeal, les enregistrements de chez Sun, et en même temps tout le côté un peu hyper cheesy, business, quoi. Cheesy, dégoulinant, les films pourris. Mmh. Après, ça reste un énorme chanteur. Je suis pas un fan d'Elvis. Je préfère largement dire Jerry Lee Lewis, par exemple.
Ouais.
Ou Johnny Cash, ça c'est plus banal. Mais ouais, il représente un espèce de truc quand même. Mais pas. Enfin, je suis pas.
Pas un aficionado.
Voilà.
Alors, plutôt Front 242 ou Front 242 ou Erreur 404?
Front 242, en plus je vais jouer avec eux à l'Élysée Montmartre le 22 décembre, cool. Je crois.
Oui, puis t'aimes pas trop les ordinateurs?
Si, parce que je suis informaticien de formation. J'aime bien les ordinateurs. Après, pas sur scène.
Voilà, tu essayes quand même d'amener autre chose.
Oui, hein. Voilà. Oui. Et ce qui évite les erreurs.
404.
Ouais.
Et enfin, pour finir, t'es plutôt Peaky Blinders ou American Horror Story?
Ni l'un ni l'autre, en fait. Ouais. Même si Peaky Blinders, ils ont fait une synchro avec Black Strobe.
Ouais, c'est vrai.
C'est pour ça qu'on en parlait.
American Story, non. Ouais. Donc, je suis Peaky Blinders.
Par défaut.
Non, mais par contre, dans les Peaky Blinders, dans la BO, il y a du Nick Cave, etc. Des fois, moi, quand je t'écoute ou que on te connaissait un petit peu, tu nous fais penser un peu à ça aussi.
Oui, je suis assez fan de Nick Cave. Après, c'est le côté un peu...
Bad Cave.
Ouais, et puis un peu blues, country. Enfin, j'écoute beaucoup de country aussi.
Eh ben merci, on a fait le tour du Wall of Death.
On a fait le tour, merci.
Nous, ça te remercier.
Merci beaucoup pour ce temps passé.
Participation, on sait que ton calendrier, ton agenda est chargé.
C'était un plaisir de...
Parler métal.
De parler métal et de boire quelques bières.
C'est ça, exactement.
En plus, dans un contexte, dans un lieu qui est mythique.
On a eu le plaisir d'être invité au Hellfest Corner par notre ami Laurent Rossi, que tu connais bien,
je crois. Que je connais bien, puisque c'est lui qui a sorti qui s'occupait de Beggars, donc le label anglais, qui a sorti l'album de Black Strobe où il y a Maman.
Voilà, donc on remercie Laurent de nous accueillir au Corner et dans ce magnifique shop du Hellfest Corner où on a envie d'acheter. Et il faut pas, et c'est mal, et voilà. Et qu'est-ce qui nous attend, nous, qu'est-ce qui t'attend, toi, dans les années, les mois à venir, plutôt
J'ai un nouvel album en préparation, mais ça sera sûrement pour 2023.
Okay.
Quelques EP. Il y a un EP qui va sortir qui va un peu piquer, un peu influence. J'aime beaucoup Ministry, enfin la grande époque de Ministry.
Oui.
Et j'ai fait une petite sortie comme ça, un peu cool. Ministry techno.
Cool.
On a hâte.
Avec un test un peu punk. Un peu, voilà.
Parfait, parfait.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci. On remercie la Dami.
Oui, nos partenaires,
qui nous soutiennent toujours. La SACEM, évidemment. Et puis on vous dit à une prochaine Metal Story. Merci encore, Arnaud.
Merci à tous.
Avec plaisir.
En mission pour le Seigneur.